Face à l'Orient, Radio Balise, rive gauche.
Bonjour, micro salé numéro 145. Patricia poursuit sa série à fleurs de page. Et cette émission est consacrée à la maison Germaine Tillon, ses résidences, et notamment sa dernière résidence avec le poète Falmarès. Patricia, c'est à toi.
Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, chers auditeurs, nous avons le grand bonheur et la chance de recevoir aujourd'hui, sur les ondes de Radio Balise Rive Gauche, Falmarès, poète, écrivain, mais pas que. Et nous évoquerons avec lui d'autres de ses talents. Falmarès est actuellement en résidence à la maison Germaine Tillon à Plouhinec. Et à cette occasion, je remercie Amélie-Anne Chaplin, présente parmi nous. Amélie-Anne est directrice générale et fondatrice de CAMP, capsule artistique en mouvement permanent. Merci Amélie-Anne d'être présente avec nous ce matin. Comment présenter Falmarès ? Dans le paysage poétique que je connais, c'est comme si un ovni faisait irruption dans vos jours, vous apportant sérénité, force, espoir, une écriture qui vous transcende. Il est l'une des voix les plus prometteuses de la poésie contemporaine, l'une des grandes voix de la poésie. Il est ambassadeur de la paix. Auteur de 6 recueils, 5 édités et un nouveau à paraître prochainement, nous en reparlerons. Falmarès, nous nous connaissons depuis, je dirais, déjà plusieurs années. Je crois que c'était notre première rencontre en 2019 et nous avons eu l'occasion de lire ensemble à l'éphémère à Port-Louis en 2020 autour de l'exil et de la poésie, des sujets qui nous tiennent à cœur l'un et l'autre avec d'autres artistes de la rive gauche. Vous étiez venu en août 2021 à la Dame Blanche où vous aviez partagé la soirée avec Titoine, Aujune, des artistes bien connus de ce secteur, et notre grand ami musicien Titi Robin. Falmarès, vous avez un parcours très impressionnant, particulièrement éprouvant. Vous êtes né en Guinée en 2001, je crois, et si c'était possible, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu donc vos origines et votre parcours.
Bonjour Patricia, bonjour Amélie-Anne, bonjour tout le monde. Je suis né en Guinée en 2001. J'ai une enfance banale comme la plupart des enfants guinéens et né à Conakry et aussi passé mon enfance entre Conakry et Koba, qui est situé un petit village qui est situé à 200 km de Conakry. Et très tôt, les parents se séparent à Conakry et mon frère, ma sœur et moi, on se retrouve à Koba auprès de notre grand-mère maternelle. Mm-hmm. C'est là où on a passé plus de 7 ans cette année sans voir le papa et en voyant la maman une fois par semaine parce qu'elle venait le samedi au marché de Koba. Mm-hmm. Et elle repartait en fait le dimanche en fin de journée. Donc c'est comme ça que j'ai... notre grand-mère nous a mis à l'école et ensuite jusqu'à vraiment une année avant la fin des collèges, les parents se réconcilient, on retourne auprès des parents à Conakry. D'accord. Donc il faut s'imaginer un enfant qui se promène en fait un peu comme dans les... sous les coudes en fait, de sa grand-mère maternelle, à l'accompagner un peu partout à faire l'agriculture dans ses travaux champêtres, la pêche, l'extraction du sel, parce que c'est des activités quotidiennes de tous les, de tous les paysans, de tous les, toutes les personnes à Koba. Moi, j'ai grandi comme ça en allant à l'école française parce que la Guinée est un pays francophone et ensuite... les parents se réconcilient, je reviens à Conakry. Mmh. Et après le collège, un an après, ma mère décède. C'est comme ça mon exil commence.
Dans ce parcours d'exil, Falmarès, est-ce que vous pouvez nous, nous dévoiler, enfin nous dire un petit peu les pays que vous avez traversés sans forcément rentrer dans le détail de choses certainement très très douloureuses, mais donc vous êtes parti de Guinée.
En fait, je quitte ma famille. Pourquoi ? Parce que après le décès de ma maman et mon frère et ma sœur retournent auprès à Koba, auprès de ma grand-mère maternelle, parce qu'elle a eu pour fille unique ma maman, et pour un peu la consoler aussi, pour rester auprès d'elle. Et moi, je reste avec mon papa et la belle-mère. C'est là où tout commence, en fait, des violences dans la famille avec la belle-mère qui me mettait en danger, qui m'a poussé à quitter ma famille. Voilà la raison, en fait, qui m'a poussé à quitter ma famille. Ensuite, le Mali, j'arrive au Mali, à Bamako. Je reste là-bas pendant plusieurs jours et... je rencontre des gens, je n'avais absolument rien. Je quitte la Guinée avec un petit sac et aussi quelques habits dans le sac. Et quand j'arrive à Bamako, je n'avais absolument rien. Et je rencontre deux personnes, deux jeunes comme moi là-bas. C'est grâce aux jeunes-là, je mangeais, je partageais ce qu'eux, ils avaient. Et ensuite, je suis ces jeunes-là en allant vers le nord du Mali. On traverse tout le désert en montant, en fait, dans les camions, en fait, les camions qui transportent du sable. Voilà, je les suis, en fait, pour aussi faire comme eux. On traverse tout le désert du Sahara jusqu'à Tamaracet, une ville frontalière de l'Algérie. Et là, nous nous séparons parce qu'il y a... on ne pouvait pas se rassembler. Il y avait les gardes, la police et la gendarmerie. Et si on vous voit, vous êtes ensemble, on vous prend, on vous ramène dans le désert, en fait. Ce qui est très dangereux aussi. Et là, en fait, il y a un monsieur qui arrive et ensuite me demande, en fait, qu'est-ce que je fais dans les rues à Tamaracet, au sud de l'Algérie. Et ce monsieur me demande de monter dans son véhicule. Je viens à Alger. Donc, Alger, d'accord. Je reste avec ce monsieur pendant 6 mois et demi. Et ensuite, la Libye, traverser la Méditerranée jusqu'en Italie. Et voilà.
Alors, des ouvrages ont été édités. 3 aux éditions Les Mandarines, 1 aux éditions Yigi et 2 maintenant à apparaître très prochainement aux éditions Flammarion. Alors, à eux seuls, de mon point de vue, Falmarès, ces titres forment un joli poème. Soulagement. Amours et douleurs, tropiques printaniers, lettres griotiques, Sili, ô Guinée, catalogue d'un exilé, le jardin des flamboyants. Comment choisissez-vous les titres ?
Je ne choisis jamais les titres par hasard et je prends le temps vraiment de les choisir. Je pense que je les choisis au fur et à mesure aussi de la construction, de la composition de l'œuvre. Et les premiers recueils, les deux premiers que j'ai publiés, qui sont « Soulagement » au pluriel, sont nés vraiment d'une évidence. Quand je suis arrivé en Europe, en Italie et ensuite en France, je me suis senti soulagé aussi. Donc, j'ai ressenti une forme de soulagement. Et c'est pourquoi j'ai nommé en fait, directement ces premiers poèmes, ces premières publications « Soulagement ». Et ensuite, lettre griotique, Sili au Guinée, et catalogue d'un exilé, peut-être c'est mon recueil le plus connu parce qu'il a été bien diffusé aussi. Et donc, ce qui raconte aussi ce parcours-là d'une manière poétique, beaucoup plus en détail. Mais le choix du titre, c'est aussi, pour moi... il est aussi très important, en fait. C'est comme le choix, je ne sais pas, d'un nom, de quelque chose, d'une identité. C'est différent parce que l'identité, on le choisit pas. Le titre, on le choisit. Mais c'est vraiment quelque chose qui se construit au fur et à mesure de la construction de l'œuvre poétique.
Pour l'édition de ces recueils Falmarès, parce que si je fais un petit peu le calcul, je pense que vous étiez mineur en arrivant, en fait, sur le sol français, le sol italien. Comment ça s'est passé au niveau de l'édition ? Parce que vous étiez mineur, alors est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là ?
C'est la première fois qu'on me pose cette question. Quand je suis arrivé en France, j'avais pas encore 16 ans à ce moment-là, j'avais 15 ans. Et j'étais à Nantes et ensuite le juge d'enfants m'a orienté dans le département du Morbihan. C'est comme ça que j'ai connu cette région, vraiment grâce à cette orientation du juge d'enfants. Et arrivé à Vannes, l'aide sociale à l'enfance m'a envoyé au Bonneau. La commune du Bonneau. Et on était là et les habitants de la commune venaient nous donner des cours de français gratuitement, bénévolement, et nous prêtaient des vélos, aller sortir un peu des activités, nous proposaient plein d'activités et même faire le marathon de Vannes. Et nous, on faisait beaucoup le foot à ce moment-là aussi. Et un jour, ils nous invitent à aller ramasser les déchets plastiques au bord du golfe du Morbihan, ces habitants-là. C'est après cette activité, ils nous ont invités ensuite à la fête de la musique, au Bonneau. Et on est parti avec des camarades, suivis par l'aide sociale à l'enfance, on est parti à la fête de la musique. Et ce jour-là, moi, j'ai dit deux poèmes à la fête de la musique. Il y avait une maison d'édition qui était là, les éditions Les Mandarines. Et le lendemain, pendant qu'on faisait le foot derrière la maison, et ils sont venus, ils m'ont proposé de publier ma poésie. Donc, c'est comme ça, le premier page, c'est comme ça que j'ai découvert cette maison d'édition. Et ensuite, ça a pris du temps. Ils ont fait les demandes aussi à l'aide sociale à l'enfance, à l'ASE. Et ça a pris du temps. Et un jour, j'ai appelé en fait l'aide sociale à l'enfance. Je suis tombé sur l'adjointe à ma titrice. Et nous avons discuté ce jour-là pendant plus de 30 minutes. Je me souviens, elle me disait... Écoute, c'est très compliqué. Vous êtes nombreux à être suivis par le département. Un livre qui publie, c'est beau, mais c'est compliqué. Et on ne sait pas comment ça va se passer et tout. J'ai dit, madame, écoutez, Blaise Pascal a inventé la machine à calculatrice à l'âge de 16 ans pour aider son papa qui travaillait dans la comptabilité. Imaginez s'il n'avait pas fait cela, s'il avait attendu ou s'il n'avait jamais inventé la machine à calculatrice. Comment vous, tout le travail que vous faites en comptabilité et combien de temps s'il n'y avait pas de machine à calculatrice, ça vous aurait pris? Et après, elle m'a tout de suite dit, je soutiens ton projet. Et la semaine d'après, mon contrat d'édition, de publication de livre a été signé et le livre est sorti quand j'ai commencé le lycée avec les apprentis d'Auteuil à Vannes. Au lycée Jean Guillénaud de Vannes.
Nous avons le grand bonheur et la chance de recevoir aujourd'hui sur les ondes de Radio Balise Rive Gauche, Falmarès.
Mes influences sont nombreuses. En fait, il n'y a pas que les poètes que je lise, il n'y a pas que des poètes qui m'influencent, mais il y en a beaucoup, bien sûr. Mm-hmm. Je pense que ma première plus grande influence, la première et la plus grande, c'est ma grand-mère maternelle, mm-hmm. Auquel j'ai passé, je pense que les moments vraiment les plus... peut-être important, je ne sais pas comment le dire, important de ma vie en Guinée. Mm-hmm. Elle m'a marqué par sa simplicité, tout simplement, par sa manière de vivre aussi.
Oui.
Et la manière dont elle vivait avec la nature, avec aussi ses semblables aussi, ses voisins, voisines. Et ça m'a profondément marqué, sa philosophie. D'ailleurs, j'ai écrit un poème récemment qui s'appelle « Ma grand-mère ». Était une poète. Et cela montre vraiment ce que je pense, en fait, ce que j'ai vu d'elle, de mes propres yeux. J'ai vécu auprès d'elle. Et donc, c'est ma plus grande influence. Et il y a aussi aujourd'hui des poètes comme Nimrod, aussi, oui. Pour moi, qui est aussi un des très importants et grands poètes aujourd'hui. Et il y a Yvon Lemaine, il y a plein d'autres poètes aussi. Il y a Arthur Rimbaud qui m'a aussi beaucoup, beaucoup marqué. Il y a des poètes grecs aussi, comme Homère, Hésiode. Mm-hmm. Mes premières lectures, il y a Aragon aussi, à un certain moment. Donc, il y en a beaucoup. Il y a mes enseignants aussi, les profs d'école que j'ai connus, qui m'ont aussi beaucoup marqué aussi. Donc, les influences sont comme ça. Il y a aussi des amis aussi.
Vous évoquiez tout à l'heure le poète Yvon Lemaine. Yvon a écrit un recueil intitulé « Besoin de poèmes ». Alors, à ce jour, Falmarès, qu'est-ce qui déclenche le poème, l'envie d'écrire ?
Je pense qu'on écrit aussi vraiment parce qu'il y a quelque chose en nous, il y a un feu en nous qui brûle et qu'on a envie de partager. Et aussi, on écrit aussi parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aussi ce besoin-là aussi. En fait, c'est ce besoin profond. Et ça peut paraître un peu paradoxal, on dit que la poésie ne sert à rien et tout, mais il y a ce besoin-là. Oui. Aujourd'hui, quand on regarde notre monde aujourd'hui, qui est confronté à une révolution technologique, parce que c'est le mot le plus... Quand on regarde l'intelligence artificielle, c'est vraiment une révolution. Mmh. Et tout ce qui est autour, et qui est aussi important, qu'on a besoin aussi de ces avancées-là, bien sûr, il faut le souligner. Mais aussi, la poésie, la lecture d'une manière générale, le livre physique, l'art d'une manière comme cette résidence qui permet à de nombreux artistes de s'exprimer, de créer. Mmh. Et voilà, je salue le travail de Améliane et tout. Mmh. Et donc, c'est important de se connecter à la nature. Parce que nous venons de la nature et aussi de penser au climat, à tout ce qui nous entoure et aussi de penser aussi aux autres aussi, de penser aux autres. On voit vraiment que ces réseaux sociaux nous éloignent beaucoup plus que nous nous rapprochons.
Oui, oui,
vous voyez, donc c'est ce besoin-là de poésie, c'est ce besoin de lecture que nous avons, le besoin d'art aussi, l'art a toute sa place dans le monde dans lequel nous vivons. Et on a, l'art est vital, est vital comme le pain, comme de l'eau, tout simplement.
En lisant vos poèmes, Falmarès, moi, ça m'apporte une sérénité apportée par le pouvoir des mots. Je voulais simplement revenir sur le catalogue d'un exilé. Chaque poème, ou presque, est daté avec l'endroit où vous avez écrit le poème, il est daté et il y a également donc le lieu.
Je ne sais pas si c'est important ou pas, mais ce que je sais, cette datation, en fait, ce geste-là est né d'une forme d'itinérance aussi. Quand je suis arrivé en Europe, en France, en Italie, en France particulièrement, je passais d'une famille d'accueil à une autre, d'une ville à une autre, d'un endroit à un autre. Je n'avais pas aussi d'endroit fixe à ce moment-là. Je ne savais pas quelle serait la décision juridique ou la décision des gens qui s'occupent de moi, où est-ce que je vais rester. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre ces notes-là. Et parce que le poème, c'est quelque chose souvent instantané et, aussi bref et aussi puissant parfois. Et donc, c'est comme ça que c'est né ce geste-là, de noter aussi les villes que je découvre en France, les gens que je découvre aussi, que j'ai envie de garder souvenir aussi, ces gens-là, ces visages-là, ces villes-là, et la beauté aussi des environnements. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à noter, à dater. Et aujourd'hui, quand je voyage aussi à l'intérieur de la France, je prends des notes, j'écris, je note et je date aussi.
Est-ce que vous pourriez, Falmarès, nous lire le poème « Je ne suis pas un migrant » qui, pour moi, fait vraiment écho à un poème d'Ananda Devi, qui est une poète mauricienne, un poème extrait de son recueil « Le long désir » et qui parle du statut de migrant, d'apatride.
Je ne suis pas migrant. Je ne suis pas migrant. Je ne suis pas exilé, je ne suis pas homme de couleur. Je suis un enfant de tous les pays. Je suis un être de bâtonnet semblable au vin panaché du pays, semblable à la canne à sucre, semblable au balai dansant de l'oiseau griot. Je ne suis pas migrant, pas étranger, pas même apatride, ni diaspora, ni expatrié, ni réfugié, ni même immigré. Je suis un petit corbeau des mers en ébullition, un champ hybride en labour, un haillon d'écorce en résolution, un semer de blé, de coton, de riz, pour le petit manuscrit des peuples. Je ne suis pas demandeur d'asile, ni sans papier, ni sans carte d'identité de ma langue d'alcool. Oh, je suis cet enfant qui a marché, saison après saison, à la recherche d'un refuge. Je ne suis pas migrant, je suis une lueur de colombe, une flamme de liberté, une ténacité d'acier, un rêve en marche. Oh, je ne suis pas migrant, je suis un homme libre. Le monde est mon pays, la terre est ma demeure.
Merci Falmarès pour cette lecture, merci pour ce poème. Et voilà, je disais faire écho peut-être au poème d'Ananda qui se termine par « Atride pour la froide inespérance, apatride pour ma pierre veinée d'ailleurs, Atlantide ». Pour mes rivages dissimulés, pourquoi toujours poser la question d'identité ? Je suis.
Mais par rapport au mot migrant, par exemple, je l'ai toujours dit que c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui d'une manière injuste. Pourquoi ? Parce que quand des gens qui viennent, par exemple, du Sénégal, quittent le Sénégal pour venir en France, en Suisse ou en Belgique, quittent le Congo ou le Ghana, en fait, quand c'est des pays africains, on utilise en fait pour ces ressortissant là le mot migrant en fait. Et quand c'est quelqu'un qui quitte les États-Unis pour aller habiter au Mali, quelqu'un qui quitte la Suisse pour aller habiter en Guinée, on n'utilise pas en fait le mot migrant, on utilise d'autres mots peut-être, d'autres mots. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est des mots aujourd'hui qui sont mal utilisés et qui sont injustement tout simplement utilisés. On doit, parce que le mot aussi est très important, on doit revoir cela, l'utilisation de ces mots-là pour que ces choses... Parce qu'il faut bien choisir les mots que nous utilisons. C'est aussi l'importance de la littérature, de la poésie et aussi même de notre quotidien, tout simplement.
Si vous me le permettez, j'aimerais lire un des poèmes, de vos poèmes qui vient de paraître dans l'anthologie Chemin de liberté, justement, qui paraît dans le cadre du printemps des poètes, hein, dont le thème principal cette année est « Liberté, force vive déployée ». 121 poètes d'aujourd'hui aux éditions Segers, une anthologie rédigée par Jean-Yves Roseau. Il faut prendre soin de ce qui est beau. Prends soin de ce qui est beau, car ce qui est beau est fragile. Prends soin de la personne qui est présente pour toi. Oublie celle qui est partie. Ne rumine pas sur le passé. Prends soin du présent, car le présent détermine la vie. Apprends délicatement des petites choses. Apprends dans la tendresse de tous les jours. Implore le quotidien qu'il soit riche et bon. Tends la main. Accueille le nécessaire. Ouvre-toi. Ouvre-toi pour sentir que la vie est encore possible. Marche à ton rythme dans le vent pour vivre encore pleinement. Et écoute plus souvent que tu ne parles. Écoute plus souvent. Utilise soigneusement les mots, car les mots sont pour l'esprit ce que la nourriture est pour le corps. N'envie pas. N'envie pas. Travaille pour tes rêves et crois à l'étoile. Elle t'amènera aussi loin que le ciel. Prends soin de ce qui est beau, car ce qui est beau est fragile. Ne rumine pas sur le passé. Prends soin du présent, car le présent est l'avenir.
Merci Falmarès, beaucoup. C'est encore plus beau en vous entendant.
Ah, je ne sais pas, mais je suis très émue lorsque je l'ai découvert. J'ai reçu l'anthologie il y a quelques jours. Donc, vous avez écrit ce poème à Nantes le 30 juillet 2025. Voilà. Vous aviez, entre guillemets, cette commande en vue ou bien comment est né ce poème, Falmarès ?
Tout simplement, les poèmes naissent à la fois d'une nécessité. Mm-hmm. Chaque poème est là dans un recueil, dans un projet et de livres parce qu'il a sa place, en fait, tout simplement. Il doit être là. Et donc, c'est cette nécessité qui ramène chaque poème, chaque thème. Et aussi, ces nécessités, je pense que aussi naissent aussi d'une observation, aussi des souvenirs de certaines choses, certains éléments qui se forment, qui donnent naissance à ça, et tout simplement. Je passe notamment dans les écoles et principalement, je rappelle toujours aux élèves qu'ils ont beaucoup, beaucoup de chance. Je le dis parce que j'étais au lycée il n'y a pas très longtemps et parce qu'ils vivent dans un pays qui aussi les favorise beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ils doivent profiter de cela, de ces moments-là, lire, aller dans une librairie, dans une bibliothèque ou dans un CDI d'un établissement et aussi écouter, même si c'est des messages aujourd'hui qu'on ne parle pas souvent, qu'on ne dise pas souvent. Moi, je leur dis d'écouter aussi leurs parents aussi. Mmh. Et c'est très important d'écouter les parents, d'écouter aussi les enseignants aussi. Et parce qu'eux, ils connaissent, ils ont beaucoup plus d'expérience de vie. Un enfant peut être plus intelligent, je ne sais pas, qu'un aîné. Ça peut arriver, mais en fait, l'aîné a l'expérience que l'enfant n'a pas encore eue. Mm-hmm. Et profiter de cette expérience-là, d'écouter plus possible et aussi tout simplement. Donc, c'est des choses comme ça. Et quand ils me demandent qu'est-ce que j'ai à leur dire, que je leur dise, parce que c'est des choses qui viennent naturellement du cœur.
Est-ce que la Bretagne, par exemple, a des similitudes géographiques avec la région de Guinée où vous êtes né ?
Alors, quand je suis arrivé dans cette région, en Bretagne, que je ne connaissais absolument pas auparavant, j'ai découvert voilà quelque chose qui aussi a des similitudes avec la région d'où je viens. Et d'abord, les côtes aussi, les travaux aussi, l'agriculture, la pêche, l'élevage aussi. Et aussi le climat aussi. En fait, un climat tempéré aussi. Et ce climat à Koba, même l'extraction du sel aussi, hein, proche de la Bretagne aussi. Et donc, il y a ces activités-là, paysannes, ce climat aussi tempéré. Et aussi, voilà, c'est ma aussi, ça crée aussi une proximité aussi pour moi. Ça m'a aidé, ça m'a réconforté aussi. Et je pense que ça m'a aidé aussi à m'adapter aussi beaucoup plus facilement avec les gens, bien sûr, que j'ai rencontrés. Ça, c'est une chance aussi de rencontrer mes premiers éditeurs, beaucoup d'amis, beaucoup de familles aussi, beaucoup de familles que je ne cite pas, mais et que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé, en fait, qui m'ont appris beaucoup de choses, et aussi, bien sûr, des camarades de classe aussi. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes.
Vous êtes actuellement en résidence à la maison Germaine Tillion. Mais Germaine, c'est un peu comme ma grand-mère aussi. Enfin, j'aime beaucoup aller au dimanche chez Germaine, dont nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Et j'ai vu que vous aviez écrit quelque chose sur la maison. C'est un poème sur la maison. Un poème sur la maison qui nous manque. Un poème sur une absence de maison aussi, je crois. C'est aussi un poème sur un bref retour à la maison. C'est aussi un poème sur le voyage. Alors, je vous demande, est-ce possible de m'embarquer dans un voyage sans que la maison ne nous manque ? Est-ce possible ? Falmarès, c'est à vous pour nous parler un petit peu de ce que vous vivez là, chez Germaine, depuis le mois de décembre, je crois.
Ce que je vis à la maison Germaine est incroyable, et tout simplement parce que ça me permet d'ailleurs, grâce à Camp, grâce à Méliane qui est présente ici, qui a créé ce projet, qui coordonne ce projet, me permet tout simplement de créer, d'avoir ce moment-là de création, mais aussi de sérénité aussi, qui est très important aussi. Et une figure comme elle aussi, quand je l'ai découvert, est juste lumineuse en fait. Quelqu'un de lumineux et aussi incroyable, d'une force surnaturelle, on pourrait dire. Et moi, j'organise en fait mes journées, voilà, en écrivant. C'est un projet de roman maintenant. Et voilà, j'écris. Et de temps en temps aussi, pour m'échanger des idées, à la fin de la journée, je dessine aussi.
Voilà, oui.
Et entre-temps, il y a aussi des rencontres. Peut-être Améliane en parlera beaucoup plus longuement des détails, mais moi je me consacre à la création de ce roman là qui avance sereinement depuis plusieurs semaines. Donc je suis à la fin de la résidence ce mois de février, et c'est une résidence qui dure pour moi 3 mois, et que c'est ma première résidence, et donc je suis très content. Je remercie Camp et aussi voilà tous les collaborateurs et tout, et la ville aussi de Plunec aussi pour cet accueil de création que les artistes aussi ont besoin, et les artistes ont besoin des lieux comme ça de création, parce que tout simplement les artistes aussi témoignent aussi la mémoire de notre moment. Ils racontent, ils écrivent, et ça permet de garder ces moments-là. Les histoires que nous connaissons du passé ont été écrites en fait par des gens. Et donc ces gens-là ont eu des soutiens. Donc cette résidence me permet d'avoir ce soutien-là, de cette sérénité, cette nécessité-là de création en plus.
Je vais peut-être passer la parole à Améliane.
Falmarès habite la maison Germaine Tillion depuis le mois de décembre. C'est un habitant temporaire de Plouinec que nous avons l'honneur d'accueillir. Et je dirais qu'il le fait avec beaucoup de générosité. Il aussi se met en partage avec des étudiants, des écoliers, écolières, et que du coup, la façon dont il a de partager son œuvre, sa vie, ses trajectoires est tout à fait passionnante à entendre, et je suis sûre importante pour les nouvelles générations aussi à entendre. Et la maison Germaine Tillion, donc, elle a réouvert ses portes en septembre 2024. Donc c'est un site qui est propriété du Conservatoire du Littoral, du coup dont la ville de Plouinec est gestionnaire. Et cette maison, ancienne maison d'habitation de Germaine Tillion, est aujourd'hui une résidence d'artistes sur un lieu culturel dans un espace naturel. Nous accueillons une quinzaine d'artistes par an, toutes disciplines confondues, qui vont du coup du chant, de la poésie, de la littérature, du théâtre, de la performance, le design, etc. Avec des thématiques qui rendent hommage, je dirais, aux valeurs et aux combats portés par Germaine Tillion. L'année dernière, c'était l'art de résister, qui était notre thématique. Cette année, c'est l'art de traverser les frontières au sens large. Les frontières, elles sont migratoires, mais elles sont du coup aussi celles des oiseaux. Il y a énormément de frontières finalement qui sont visibles et plus ou moins invisibles. Et l'année prochaine, ce sera grandir littoral. Donc des thématiques qui sont en prise directe aussi avec des enjeux contemporains, mais aussi des enjeux du territoire. Et je dirais que cette maison, c'est important, c'est un lieu de culture aujourd'hui, mais c'est d'abord en effet une maison et c'est un lieu de l'intime. Les artistes y dorment, ils sont trois à y cohabiter. Et je dirais que ce qui me touche aussi beaucoup, c'est la façon dont les interactions se passent entre elles et eux. Donc tout ce qui est de l'ordre du quotidien et de l'imprévisible qui a lieu. Et en effet, dans des temps de crise que nous traversons, je dirais que les artistes ont une place très très importante, pour rejoindre ce que disait Falmarès, parce que même si parfois les contextes ne permettent pas beaucoup de production, il faut trouver des espaces pour qu'ils puissent imaginer, transmettre, écrire, raconter, et que des lieux de l'art sont des lieux qui permettent de proposer des cadres pour cela, et la maison Germaine Tillion en est un, et du coup je suis l'une des gardiennes, on va dire, de ces lieux qui permettent de protéger la création.
Merci beaucoup, Améliane. Alors, Falmarès, si j'ai bien compris, il y a probablement un projet de roman.
Oui, le projet est déjà connu parce qu'il est sur le site de Camp et j'en ai parlé aussi plusieurs fois sur les réseaux sociaux notamment. Donc, c'est un projet de roman au départ qui commençait les années 1900 jusqu'à nos jours et donc raconter une histoire guinéenne, africaine sur plusieurs générations. Et entre-temps, le projet, il a évolué dans son écriture. Je me suis dit de raconter en fait ce parcours-là, en fait, qui est à la fois personnel et pluriel, parce que finalement, ce que j'ai eu comme parcours, c'est aussi une similitude de beaucoup d'autres personnes, en fait, l'histoire de beaucoup d'autres personnes aussi a quelques singularités. Donc, il y a eu énormément de demandes aussi. Les gens me demandent, est-ce que je pense à raconter ce parcours-là en forme romancée aussi?
D'accord.
Et donc, finalement, ça va être ça, ce projet de résidence et que je suis en train de développer, d'écrire depuis plusieurs semaines, depuis maintenant plus de 2 mois. Et voilà, et je dessine aussi.
De très, très, très beaux portraits, Falmarès.
J'ai commencé en janvier-février, à dessiner. Mais ce besoin-là était là depuis mes années de lycée à Jean Guéhenno à Vannes, qui ne s'était jamais exprimé auparavant. Et quand j'ai déménagé en janvier, j'ai commencé à dessiner. Et ensuite, je me suis mis à la peinture à huile. Et je me suis découvert moi-même. Donc, pour vous dire que moi-même, je suis surpris. Quand je dessine des choses, je suis surpris de voir moi-même ces dessins-là. Et donc, c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à expliquer. Mais j'apprends tous les jours, chaque fois quand j'ai le temps. Et quand j'ai... Voilà, en tout cas, c'est comme en poésie. Ça me permet aussi de m'échanger les idées aussi, de me découvrir aussi, tout simplement. Ouais.
Dans quelques jours sort votre dernier recueil donc chez Flammarion, Le Jardin des Flamboyants. Alors peut-être, Falmarès, pourriez-vous nous lire un poème?
Je vais vous lire un poème qui s'appelle « La gratitude ». Pourquoi ce choix de gratitude? Parce que je trouve que au final, tout est gratitude dans la vie. Et même parfois, certains événements, certaines choses difficiles qui nous arrivent, c'est peut-être pour nous dire, prenez un autre chemin pour nous ouvrir les yeux, pour nous apprendre quelque chose. Et il n'y a pas de vie heureuse sans gratitude ni générosité. Donc, c'est les deux choses-là qu'il faut. Et aussi pour nous ouvrir aussi sur la simplicité L'importance aussi des choses simples aussi, des choses parfois qu'on ne pense pas parce qu'on a, on s'imagine des choses plus grandes, des problèmes plus grands, mais il y a des choses que nous avons à notre portée qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, la santé et voilà, et des choses comme ça, tout simplement. Mmh. Donc, la gratitude. Si tu te réveilles le matin dans un lit, libre, en bonne santé, cultive de la gratitude. Si tu sors de chez toi pour aller travailler, flâner dans un jardin, cultive de la gratitude. Si tu reviens chez toi vivant, conscient, cultive de la gratitude. Si tu te souviens encore de ton enfance, de ton prénom, d'une joie, d'un amour, rien qu'un seul, cultive de la gratitude. Si tu vois une nouvelle saison arriver, peu importe la saison, peu importe le jour, si tu es libre, cultive de la gratitude. Si tu es libre et en bonne santé, cultive de la gratitude. Sois moins dur envers toi-même, cultive de la gratitude, car il y a beaucoup de gens qui désirent avoir les petites choses que tu as aujourd'hui, rien que ces petites choses.
Le jardin des flamboyants apparaître donc dès le 25 février 2026 et donc c'est aux éditions Flammarion. Merci
à
d'être
la prochaine.
Venu, merci d'avoir voilà accepté notre invitation.
Merci également.
Merci à Méliane d'avoir accompagné Falmarès et de voilà de nous avoir parlé de la maison Germaine Tillion. Chers auditeurs, à bientôt. Nani ba mulumali ya te.
Baby.